chers amis, si vous voulez bien prendre place.
Oui, tout va bien. Ça va bien. Merci beaucoup.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence matinale. Et avec Catherine Dumas, Alain Caradoc, Frédéric Thibault, Mathieu Laffey, Olivier Thillière qui n'est pas là ce matin, nous voulions, toute l'équipe des Lumières de Paris, vous remercier, vous dire que aujourd'hui c'est un grand jour. D'abord parce que nous reprenons nos activités. Et puis, je vais vous proposer de considérer qu'aujourd'hui recommence la liberté à Paris. Nous avons vécu des mois difficiles pour des raisons, je dirais, que nous ne contestons pas, mais il y a un grand appétit de vivre. D'ailleurs, dès ce matin, si j'ai bien compris, le masque n'est plus obligatoire dans la rue. À partir du week-end prochain, le couvre-feu de 23h se termine. La vie recommence. Et nous avons marqué ce jour d'une pierre blanche en disant que c'est avec Guillaume Gomez, ce matin, que nous avons décidé de donner libre cours à la vie qui est si chère au cœur de tous les Parisiens. Guillaume Gomez est notre sixième invité. Je le remercie très chaleureusement pour sa présence. Nous avons, et certains d'entre vous ont participé depuis le début de notre aventure, invité Thierry Marx, Jean-Jacques Ayagon, Hubert Védrine, Laurent Dassault, Philippe Juvin. Et nous avions bien d'autres événements qui étaient programmés et que nous avons dû naturellement reporter. Et Guillaume Gomez a lui-même dû accepter des reports. Je suis très heureux que nous aurions pu trouver ce jour solennel pour marquer le redémarrage des activités des Lumières de Paris. Les Lumières de Paris ont un seul objectif, c'est se consacrer au rayonnement international de Paris. C'est proclamer que cette ville est la plus belle ville du monde, non seulement parce qu'elle est belle, mais parce que les Parisiens, son histoire, sa culture, son état d'esprit rayonnent à travers le monde et qu'il faut que tous les Parisiens se réapproprient ce rôle, je dirais, d'ambassadeur de leur propre vie. Alors, nous allons reprendre le rythme de notre petit déjeuner et nous avons reprogrammé un grand événement. Alors, vous pouvez d'ores et déjà noter la date. Ce sera le mardi 12 octobre à l'Automobile Club et ce sera notre dîner de gala au cours duquel nous remettrons, alors la liste est encore secrète, mais le jury a délibéré, nous remettrons des trophées, les Lumières de Paris, dans 6 catégories prestigieuses pour honorer des personnalités particulièrement, je dirais, représentatives du prestige international de Paris. Je serai donc bref. Je vous dirai juste un mot. Vous avez peut-être connu des petites difficultés pour l'inscription ce matin. Nous avons surmonté ces difficultés techniques, mais comme on a dû adapter la jauge de ce petit déjeuner, il y a parfois eu des périodes de blocage, donc avec toutes nos excuses, mais sachez que pour l'avenir, nous avons remédié à ces petits problèmes. Guillaume Gomez, merci, vous pouvez venir près de moi. Guillaume Gomez a été le plus jeune meilleur ouvrier de France dans sa catégorie de la gastronomie. Il a été le chef de l'Élysée avec 4 présidents de la République. Donc, la table de France, c'est lui, le chef de la table de France. le rayonnement international de la gastronomie française et ça aboutit à une consécration tout à fait extraordinaire. Guillaume Gomez est le premier ambassadeur de la gastronomie française, nommé par le président de la République Emmanuel Macron le 1er mars. C'est monsieur gastronomie, monsieur l'ambassadeur. Nous allons tout de suite vous donner la parole, mais je laisse à Mathieu Laffay le soin de dire encore quelques mots, juste une toute petite notation amicale. Guillaume Gomez a écrit des livres, vous en avez d'ailleurs à votre disposition, et il a même co-signé un ouvrage avec Roselyne Bachelot, avant qu'elle soit ministre de la Culture. Ça tombe bien parce que nous avons l'intention d'inviter prochainement Roselyne Bachelot à nos petits déjeuners. Donc voilà, je fais le lien entre le petit déjeuner d'aujourd'hui et celui qu'on va vous proposer très prochainement, à la rentrée prochaine. Merci Guillaume Gomez.
Merci, François. J'ai vraiment le plaisir d'animer ce petit déjeuner, comme chaque fois aux Lumières de Paris. C'est pour moi beaucoup de plaisir. Et c'est d'autant plus un plaisir que c'est un ami que nous recevons ce matin. Nous recevons effectivement celui qui a été récemment nommé représentant personnel du président de la République pour tous les sujets liés à la gastronomie française, en France et dans le monde. Et tu nous en parleras, cher Guillaume. Ça fait 25 ans que tu officiais au fourneau de l'Élysée et tu as servi, comme tu viens de le dire, 4 présidents. Et si tu as troqué ton tablier et ta toque contre ce beau costume d'ambassadeur, c'est que depuis des années, tu t'investis dans ce monde de la gastronomie. Et donc, moi qui ai le privilège de connaître depuis maintenant une douzaine d'années, je sais pourquoi ce parcours tout à fait admirable, pourquoi cette énergie communicative que tu as et trouve une traduction aujourd'hui. Et je suis sûr que nos invités ce matin vont s'en rendre compte et vont pouvoir te poser un certain nombre de questions. Guillaume, en quelques mots et au-delà des deux points forts que vient de nous donner Jean-François Le Garret, dire que tu as été formé à l'EPMT, c'est l'école de Paris, des métiers de la table. Et tu as effectué l'alternance au lycée, au restaurant La Traversière, et puis tu as démarré comme commis chez Jacques-Denis Venec, le grand restaurateur de la place des Invalides. C'est ce dernier qui t'a recommandé l'Élysée, il faut que tu fasses ton service militaire, et c'est là que tu te retrouves, et tu n'en partiras que 25 ans plus tard, happé par l'atmosphère très particulière de cette brigade qui sert, il faut que vous sachiez, 90 000 repas par an. Hein, on ne sert pas que le président de la République à l'Élysée, on sert aussi tout un tas de personnes. Vous pourrez poser des questions à Guillaume, j'en suis sûr. C'est de l'Élysée que tu prépares le concours de l'Élysée de France. Tu as été à l'âge de 25 ans, tu décroches ce diplôme de l'Élysée de France. Tu es le plus jeune aujourd'hui, chef cuisinier, à avoir obtenu cette distinction. Tu franchis des échelons dans la brigade de l'Élysée. Et tu succèdes à Bernard Vaution en octobre 2013. Mais je crois, pour moi qui te connais depuis 12 années, donc tu n'étais pas encore le grand chef, tu étais numéro 2 à l'époque, je crois que ce qui fait ta particularité, c'est le temps absolument incroyable. Je me pose encore la question, comment fais-tu pour les autres, pour la promotion de la gastronomie? Tu y consacres tes jours et je pense parfois tes nuits. Et tu défends des valeurs, le travail, le partage, la transmission, le pâté en croûte, très important, et tu participes au rayonnement de toute une économie, tant sur le plan national qu'international. Et je crois que cette défense et cette promotion des savoirs, cette transmission dans les écoles, on a l'école Bénélique qui est là, je salue Jean-François Tostivin, qui est un des partenaires des Lumières de Paris, donc tu auras peut-être des questions à poser à ton ami Guillaume. Je crois que cette notion de transmission, c'est tout à fait important. Depuis 2011, tu as allé au-delà, tu as fondé l'association des cuisiniers de la République française, qui regroupe tous les chefs qui officient dans les ambassades, dans les préfectures, dans nos ministères, partout où la République est présente. Et avec d'autres collègues, tu as créé le trophée Marcel Sabot, dédié aux jeunes en formation. En 2012, Tu es le premier prix du rayonnement gastronomique relié au Quai d'Orsay et tu deviens aussi le premier ambassadeur des indications géographiques. C'est les Nations Unies qui te donnent à cette poste. Quand je dis que tu es présent partout, tu es membre de l'Académie nationale de cuisine, des disciples d'Auguste Escoffier, vice-président de l'Académie culinaire, vice-président de la Société des cuisiniers de France, membre des TOC françaises, mais je crois qu'il faut signaler une association qui te tient particulièrement à cœur, c'est celle que tu co-présides depuis 2014 avec ton ami Michel Roth, l'association Eurotoc. Eurotoc France est une association qui a été créée par Paul Bocuse pour faire le lobby du produit, pour sauvegarder, promouvoir les produits de qualité et d'origine au sein d'un réseau très important de chefs européens et auprès de la Commission à Bruxelles. C'est donc pas par hasard qu'en 2018, tu es consacré personnalité gastronomique de l'année et tu reçois les gourmands au voir, comme on dit en bon français. Et donc beaucoup de choses, j'irai pas plus loin parce que je crois qu'il faut aussi qu'on t'écoute et puis que nos amis des Lumières de Paris te posent des questions et fassent évoluer nos débats. Mais je pense qu'il faut aussi que vous sachiez que Guillaume trouve le temps aussi d'écrire des ouvrages. Tu as parlé de celui que Rosine Bachelot, Philippe Faure et Jean-Robert Pitt ont co-signé avec Guillaume sur les cuisines de la République française, les meilleures recettes. Mais tu as deux livres parus, chez Glénat, la leçon pas à pas pour la cuisine et la leçon pas à pas pour les enfants, qui ont été nommés meilleurs livres de cuisine dans le monde. Et je crois que c'est très important de souligner cet aspect de transmission, c'est pas à pas, c'est tout à fait important. Et puis avant de te donner la parole, je crois qu'il faut signaler que si tu as... fait beaucoup pour le monde de la cuisine, tu fais aussi beaucoup pour d'autres catégories de personnel en difficulté, d'enfants handicapés, etc. Et pendant la crise Covid, tu as eu un engagement tout à fait formidable, qui t'a valu la Légion d'honneur que tu portes ce matin, et je m'en réjouis, car tu es à l'origine du mouvement des solidarités auprès des soignants. Et sachez que pendant toute cette période de confinement, le premier confinement notamment, il y a eu des centaines de milliers de repas qui ont été servis à nos soignants grâce aux chefs cuisiniers français, plus de 200, qui se sont mobilisés. Et c'est Guillaume qui a motivé, mobilisé tout le monde. Donc Guillaume, ta place est ici parmi nous aujourd'hui. Tu fais rayonner Paris, tu fais rayonner la France, tu fais rayonner notre gastronomie partout dans le monde. Et donc tu es des nôtres et je te cède la parole.
C'est toujours avec une curiosité attentive qu'on écoute quelqu'un qui parle de vous et j'en découvre à chaque fois, donc c'est formidable. Je me mets là sur les tirons jaunes. Alors déjà, bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir ce matin, merci pour votre proposition, merci chère Catherine de cette invitation. Ravi d'être parmi vous bah, pour plusieurs raisons, comme vous l'avez dit, monsieur le président, directeur. C'est le renouveau, c'est en effet la première fois, je pense, je ne sais pas pour vous, mais moi c'est la première fois que je peux assister à un petit déjeuner avec autant de personnes, donc j'en suis ravi. En effet, le port du masque est levé ce matin à l'extérieur, donc c'est quelque chose de formidable, et on va enfin pouvoir reprendre nos moments de convivialité durant lesquels je vous ai, pour certains, en tout cas rencontrés maintenant depuis de nombreuses années. Alors, vous parlez de moi rapidement, puis surtout vous laissez la parole pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Peut-être rajouter ce qui n'a pas été dit et ce qui peut aussi être l'objet de ma présence ce matin dans votre belle association qui fait rayonner Paris et qui travaille sur le sujet, c'est que je suis avant tout parisien. Je suis natif de Paris. Je suis très fier d'être né à Paris. Vous l'avez entendu, j'ai fait l'intégralité de ma carrière, en tout cas mes patrons, à Paris. J'ai eu l'occasion de voyager, bien sûr, à travers la France et à travers le monde grâce à mon métier de cuisinier. Mais j'ai eu trois patrons dans ma vie. Johnny Benariac, le restaurant La Traversière dans le 12e, Jacques Le Divellec dans le 7e, et c'est Jacques Le Divellec qui, en effet, m'a placé il y a un peu plus de 25 ans à l'Élysée pour faire ce qu'on appelait à l'époque le service national. C'est vrai que lorsque j'arrive en juin 97 au Palais de l'Élysée, il y a trois personnes qui m'accueillent, dont Joël Normand, le chef de cuisine, le chef pâtissier et un cuisinier qui était ce qu'on appelle un associé, qui eux étaient arrivés à l'Élysée sous le général de Gaulle. Alors, moi, quand j'arrive, j'ai 18 ans, 19 ans, j'arrive, on parle du général de Gaulle, je me dis, mais comment c'est possible qu'ils veulent voir la cuisine en noir et blanc, ces trois-là, et comment ils ont pu rester aussi longtemps? Ce métier-là, c'est toujours une remise en question, c'est toujours du nouveau, et comment est-ce que c'est possible? Et je me suis dit, moi, je fais un an ou deux, et je m'en vais. Et je me suis rendu compte, il y a quelques mois, que les jeunes que j'accueillais devaient dire la même chose. Vous vous rendez compte, il a connu Jacques Chirac. Donc, au bout de 25 ans, je me suis dit qu'il était temps, en effet, que je fasse autre chose. J'ai proposé déjà au président, il y a quelques années, au début du mandat, pour tout vous dire, de faire autre chose, parce que j'avais 20 ans de métier, et 20 ans de maison à l'Élysée, j'avais envie de faire mon métier différemment. J'avais des propositions aussi à l'extérieur, et le président m'a demandé de rester, et qu'on allait mettre en avant la gastronomie française, ce que l'on a fait bien avant la crise du Covid, bien sûr, mais avec de nombreuses manifestations à l'Élysée, à l'extérieur. Et c'est vrai que lorsque la Covid est arrivée, il a fallu aussi redynamiser toute cette profession. Comme le dit souvent Catherine Dumas, de la fourche à la fourchette. On a été un petit peu plus loin, chère Catherine, on est parti du terrain pour aller jusqu'à la poubelle, puisque les sujets d'anti-gaspillage et méthanisation des déchets ont été quelque chose de très important aussi. Et avec l'ensemble de la profession, nos syndicats, bien sûr, le GNI et l'UMI, on a travaillé, œuvré avec les différents ministres et bien sûr les équipes du président et du premier ministre pour pouvoir relancer la profession. Donc le président a décidé de me nommer au mois de mars son représentant personnel auprès des acteurs de la gastronomie, de l'alimentation et des arts culinaires, avec ce poste qui est un poste diplomatique, vu que je suis rattaché au Quai d'Orsay, pour pouvoir faire rayonner depuis Paris la France, sa gastronomie, celles et ceux qui la font, bien évidemment, tous ces acteurs du terroir et du territoire, de nos producteurs, nos agriculteurs, nos distributeurs, nos fournisseurs, qui nous équipent en tabliers, serviettes, arts de la table, et tout ce qui fait rayonner nos tables françaises à l'international, au plus près de nos ambassadeurs et de nos consuls à l'international, bien sûr, mais également sur le territoire, vu que l'important, c'est que chaque Français puisse se réapproprier sa gastronomie et être fier de son territoire. Et c'est le but aussi de ce petit déjeuner ce matin, c'est que chaque Parisien, et j'en suis un, je sais de quoi je parle, puisse être fier de cette ville, parce que vous le savez, vous êtes là, vous en êtes toutes et tous persuadés, mais vous pouvez imaginer quelle chance nous avons lorsque l'on est à l'international, que l'on doit parler de la France, lorsque l'on dit qu'on vient de Paris, tout de suite, en face de nous. Déjà, on a une belle écoute, parce que les gens sont attentifs à ça, et forcément, les yeux brillent des lumières que l'on peut voir de Paris, qui est le nom de votre association. Donc moi, je ne vais pas être très long. En effet, merci d'avoir parlé des ouvrages. Alors, j'en parle un petit peu rapidement. J'ai écrit 5 livres. J'en parle avec vraiment facilité, puisque je suis totalement libre de vous dire que je ne perçois pas d'argent sur ces livres. Je donne l'intégralité, Mathieu l'a dit, l'intégralité des droits d'auteur à des associations. Roselyne Bachelot, en effet, avant d'être ministre de la Culture, avait accepté, et vous pourrez peut-être la questionner sur la diplomatie culinaire et le rayonnement de la gastronomie, parce qu'elle était, en effet, elle était proche de ce milieu de la cuisine avant d'être ministre de la Culture. Maintenant, on espère aussi qu'elle défendra nos projets et nos dossiers. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a fait, en effet, avec plaisir, avec Jean-Robert Pitt et puis Philippe Faure, ancien ambassadeur de France, sur le travail des cuisiniers de la République, qui fédèrent toutes celles et ceux, comme l'a dit Mathieu, qui travaillent pour la République française, donc dans nos institutions, nos consulats, nos ambassades, mais on va un peu plus loin, puisqu'on fait aussi les préfectures, et comme je le disais au président en off, on fait également les crèches et les prisons. Vous voyez, on couvre un champ assez large au niveau de la nourriture. Donc moi, je suis à votre disposition pour parler de Paris, pour parler du rayonnement, et répondre à toutes vos questions.
Merci Guillaume pour cette introduction. Donc la règle du jeu, c'est de me faire signe et de prendre la parole. Et on va démarrer par monsieur, il a été le plus rapide. Je vous laisse vous présenter.
Chef, est-ce que l'Élysée vous manque?
Alors l'Élysée n'a pas encore eu le temps de me manquer, puisque j'y suis quand même assez souvent. J'étais en déplacement avec le président la semaine dernière. J'ai du coup, pour ce déplacement, dû me rendre à quelques réunions. Et j'y étais encore même hier après-midi, parce que je continue de travailler avec les équipes qui étaient les miennes pendant près de 25 ans. Donc non, pour l'instant, je ne vais pas vous dire que l'Élysée me manque, c'était un choix quand même réfléchi, je ne suis pas parti sur un coup de tête. On a mis presque 4 ans à construire ce poste et à prendre cette décision. Donc non, l'Élysée, pour l'instant, ça fait que quelques mois, ne me manque pas. Et puis, on est à côté, et puis je suis toujours le bienvenu, heureusement, à l'Élysée, et donc je peux y aller quand je veux.
Eh bien, on poursuit. Madame ? Non, j'ai cru. Ça sera donc Alain Caradoc, le secrétaire général.
Monsieur Gomez, depuis que Paul Bocuse a fait sortir les chefs de la cuisine, il les a mis sous la lumière, quel chemin parcouru quand on voit votre présence ici parmi nous ? Et on se rend compte aujourd'hui effectivement que la question des Français fait partie du soft power français au premier rang. Comment concevez-vous votre action par rapport à ce fameux soft power quand on se rend compte qu'il est essentiel aujourd'hui, non seulement pour le rayonnement de notre pays, de notre ville, Paris, mais également pour l'avenir de notre système républicain et de notre démocratie?
Oui, en effet, là, on s'est rendu compte depuis fort longtemps que la gastronomie pouvait être un atout pour notre métier, et j'en suis très fier. Paul Bocuse a en effet décidé il y a quelques années de médiatiser la position chef, ce qui était impensable il y a même encore quelques temps, en effet, qu'un chef de cuisine puisse se retrouver devant vous et intéresser, en tout cas, intéresser tout le monde. Et c'est vrai qu'une fois de plus, à travers cette diplomatie culinaire, à travers cette gastronomie, ce sont des valeurs que l'on veut faire passer. Alors, on a beaucoup parlé dans l'introduction de la transmission. Je salue également le président de la Chambre, et puis j'ai Bruno Demont tout à l'heure de l'école Cervantes, pour vous dire que je l'ai croisé. Ah, il est caché derrière les autres voisins. Très bien. Donc, oui, en effet, c'est quelque chose d'important. On a mis ça en place, il faut le dire, grâce à Laurent Fabius, il y a maintenant quelques années, notamment l'opération Goût de France. L'opération Goût de France, c'est une opération qui tous les ans, doit faire rayonner la gastronomie internationale. C'est dans la lettre de mission des ambassadeurs, ils n'ont pas le choix. Ils doivent, une fois par an, faire une opération autour de la gastronomie. Alors, pourquoi? Le but, c'est pas de mettre en avant les chefs, qui sont déjà bien mis en avant, avec des égos tous un peu surdimensionnés. Devant vous, je peux vous en parler, mais à travers ça, en effet, ce sont des valeurs, c'est un pays que l'on défend. Quand un chef se déplace, il emmène avec lui des produits, il emmène une histoire, il emmène un terroir, il emmène un territoire, ce sont des valeurs, les valeurs de la République, vous l'avez dit, liberté, égalité, fraternité. Autour de ces semaines de la gastronomie, nous menons des actions caritatives, des actions d'éducation à la transmission des savoirs, des savoir-faire, mais également une éducation qui peut aller au-delà du fait de partager un repas. Et c'est à chaque fois la création d'un pont entre deux pays. Alors avec, bien évidemment, la mise en avant de tout un pan de notre économie, la gastronomie française, je ne sais pas si vous avez le chiffre des matins, mais la gastronomie en France, c'est 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose d'important, et à l'exportation, ça pèse énormément dans la balance par rapport à beaucoup de sujets. Donc c'est vrai que lorsque l'on parle gastronomie, on parle à travers les cuisiniers peut-être qui l'apportent, et tous ces artisans des métiers de bouche. C'est tout un pan de notre culture et de notre économie qui se déplace, une fois de plus, de la fourche à la fourchette, et tous les métiers qui vont autour de ça. Et au-delà de tout ça, on a, nous, Maxime, au club des chefs dont je fais partie, c'est le club qui réunit les chefs de cuisine de chefs d'État. C'est si la politique divise les hommes, et si bon nombre de sujets peuvent diviser, il y en a un qui les réunit, c'est la table.
Merci Guillaume. Et puisque Alain Caradoc citait ce soft power, je voulais aussi du coup rajouter, je m'autorise à le faire, tu es un des piliers du club de la table française, fondé avec Catherine Dumas, et tu avais suivi de très près une initiative que nous avons prise, qui montre bien que le soft power peut se trouver dans la gastronomie. Nous avons édité un livre qui s'appelle « À table ». Apprenez le français avec le repas gastronomique, 128 pages, avec les presses universitaires de Grenoble. Cet ouvrage, qui est un cours de FLE, français langue étrangère, a été envoyé dans les 800 alliances françaises dans le monde, et les profs de français langue étrangère qui enseignent le français aux francophiles et aux personnes qui veulent venir en France travailler peuvent le faire aujourd'hui avec des cours qui sont totalement axés sur la gastronomie. Et on voit bien que le sujet de la gastronomie est un sujet qui fait rayonner la France et ce fameux soft power dont tu parlais alors.
Malgré cet anglicisme du soft power, c'est vrai qu'on essaye de autant que faire se peut, et comme l'avait dit le général de Gaulle, donc à chaque fois, parce qu'en fait à chaque fois il existe un mot français, de parler français, et c'est vrai que s'il y a bien une catégorie de notre économie qui est la gastronomie où l'on peut faire rayonner le français à l'international, c'est bien celui-ci, puisque même à la table de la Reine d'Angleterre, les menus sont encore écrits en français. Donc voilà, c'est vraiment la langue, pour le coup, de la gastronomie. Autant la langue du numérique, la langue peut-être de l'industrie, ce n'est plus le français, autant, et notre ami Denis Bolton, que nous voyons assez souvent pour d'autres sujets, nous fait comprendre, en effet, le français est la langue officielle de la gastronomie dans le monde, et on espère que ça va rester. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'exprime lorsque je suis dans les ambassades de France, les ambassadeurs le savent, je commence mon discours en anglais pour leur expliquer que je suis très content d'être là, mais je passe au français parce que déjà dans une ambassade de France, je pense que c'est un minimum, mais que lorsque l'on parle gastronomie, on doit parler français.
Voilà. On peut dire le doux pouvoir, ça m'a fait revenir sur le travail.
C'est très bien, je trouve.
Que c'est le doux pouvoir, le pouvoir gourmand, les choses qui peuvent adoucir.
Merci.
Le pouvoir en tout ça.
On va parler à Jean-Réverpi pour que l'Académie bosse là-dessus. Qui veut prendre la parole? Allez, on reste encore un petit coup de cette salle-là, parce que là, dans l'autre, madame va demander le micro.
Gardez votre question. Dans 2 minutes.
Bonjour. Juste une chose à parler. Je voulais savoir si, lorsque vous venez suisse, une des questions qu'on vous pose, c'est voilà, vous du Suisse, vous pouvez donner la réponse. Comment ça se fait? Comment la faire? Ça fait partie des questions pour deux de la Suisse. Est-ce que vous pensez qu'on devrait établir aussi une question comme ça en France? Et on dirait, je ne sais pas, le bœuf en niveau, je ne sais pas, ce serait une question pour deux Français.
Alors c'est vrai que lorsque vous expliquez que vous êtes cuisinier français, on vous pose plein de questions sur les recettes de cuisine. C'est jusque-là encore ça va. Quand vous expliquez que vous étiez à l'Élysée, on vous demande toujours c'est quoi le plat préféré du président, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Après, quand on doit parler de la cuisine, vous savez, moi je dis souvent, la cuisine elle doit avant tout ressembler à celle et à celui qui l'a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la cuisine, c'est malgré mes 5 livres, je peux vous dire, c'est pas juste des recettes. Les recettes, elles sont vraiment là pour vous accompagner, pour vous guider. D'ailleurs, dans chacun de mes livres, je le marque soit dans la préface, soit à la fin, où je rajoute des pages, et je dis aux gens, appropriez-vous les recettes, appropriez-vous la cuisine. La cuisine, elle est là. Et c'est pas les gens qui s'occupent des écoles hôtelières qui sont parmi nous aujourd'hui qui vont contredire, mais on doit transmettre à travers ces recettes de cuisine des savoir-faire, des techniques de cuisine. Et ce qui fait la richesse de la gastronomie française et sa reconnaissance à travers le monde, c'est bien sûr un terroir unique au monde. Il n'y a pas un autre pays au monde qui ait une telle variété de produits du nord au sud et d'est en ouest. Ça, c'est on a cette chance-là, et c'est ce qui fait notre gastronomie, dom-tom compris, bien évidemment. Mais c'est avant tout aussi cette technique de la gastronomie française que les chefs, que les artisans, parce que l'on dit les chefs, mais à travers les chefs, il y a bien sûr nos pâtissiers, nos boulangers, nos charcutiers, nos bouchers, et ainsi de suite. Tout cet univers des métiers de la bouche, et on n'oublie pas les gens de la salle et de la sommellerie, qui ont perfectionné ces techniques, qui ont fait que partout où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez être performant. Et si cette gastronomie française a atteint ce niveau-là, c'est parce que aussi les cuisiniers, les chefs à l'international, à un moment de leur histoire, sont venus se former en France. Et après, comme tout un chacun, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont au début commencé par copier, comme quand vous apprenez la musique, vous faites ce qu'on vous dit faire, et ensuite, chacun avec son identité, avec son terroir, son territoire, son histoire, la saison et le pays là où il se trouve, il va créer sa propre identité culinaire, sa propre cuisine. Donc bah, nous sommes très fiers que les Suisses aient la fonte du Suisse, bon, ils ont 2-3 autres petites spécialités aussi, et on est très fiers de ça, mais en France, on a tant et tant de spécialités régionales, territoriales, de villes. On est là un petit peu pour vous parler de Paris. On a tendance à l'oublier, les Parisiens, les premiers ont tendance à l'oublier, mais Paris est le terreau de la gastronomie française et le terreau de la gastronomie mondiale. C'est parti de Paris. Les premiers restaurants ont été créés à Paris. Les cuisiniers qui sortaient de maisons bourgeoises étaient de Paris. Et Paris et l'Île-de-France étaient vraiment la première région viticole. Il y a bon, quelques siècles, hein, un petit peu moins de nos jours, je vous l'accorde. Quoi qu'il y ait un vignoble qui renaît dans le nord de Paris, était bien évidemment le premier terroir du maraîchage. Donc il y avait tout ça, parce qu'il fallait nourrir les Parisiens, bien sûr, mais tout est parti de Paris. Et la créativité de cette gastronomie française, bon nombre de recettes portent des noms liés à l'histoire de Paris ou de sa région. Donc voilà, à travers la gastronomie, on l'exprime assez souvent. On peut parler de plein de choses, de mathématiques, de français, on l'a dit, mais également d'histoire et de géographie.
Merci. Et pour aussi, il faut connaître la recette de la fondue suisse quand on veut devenir suisse. Je sais qu'il faut connaître les paroles de la Marseillaise quand on veut devenir français, parce que j'ai un copain qui a dû chanter la Marseillaise récemment, un Cubain, et il était très content, il est devenu français. J'ai pas vu qui voulait prendre la parole, c'est vous, madame.
Je m'appelle Martine Audinet et je suis membre du Blues Club International. À cette occasion, cela peut être utile pour une visite d'un président international, souvent le président international est un américain. Il serait très utile, représentatif pour notre pays. Que nous représentons dans le monde, que vous puissiez peut-être les rencontrer et aussi venir en conférence, pourquoi pas au-delà de nos frontières, peut-être aller aussi chez eux.
Je prends note de cette invitation. Avec plaisir, c'est bien évidemment mon rôle de faire rayonner la gastronomie française. Alors, un petit mot sur le Lions Club, si vous le voulez bien. On les connaît depuis de nombreuses années. Et on est très souvent, quand je dis on, ce sont les chefs de cuisine de l'univers de la gastronomie, puisque le Lions Club mène énormément d'événements, de dîners notamment caritatifs et de choses comme ça. Et j'ai eu l'occasion ces dernières années d'intervenir plusieurs fois en France. Plusieurs fois, et à l'international aussi sur des opérations, notamment sur la recherche, beaucoup de choses sur la recherche médicale pour les enfants, donc avec plaisir. Voilà, je vous laisse Mathieu organiser tout ça lors d'un prochain petit déjeuner des Lumières de Paris avec le président du Lions Club de Chicago.
Merci Guillaume. On va donner la parole à Didier Kling, le président de la Chambre de commerce, et je voulais du coup en profiter, cher Didier, pour faire savoir à tous nos amis des Lumières de Paris qu'une convention vient d'être signé entre la Chambre de commerce Paris-de-France, mais aussi la Chambre de commerce de Paris, et je salue Jean-François Mestineau, son président, et les Lumières. Donc je trouve que c'est une formidable nouvelle pour ce matin, et je vous propose d'applaudir à cette convention et ce partenariat. Je dire aussi que j'ai évidemment cité le PMT, l'école qui a formé Guillaume. On a cité l'école Médéric, une école qui est partenaire depuis l'origine de cette association Les Lumières de Paris. Guillaume, tu as cité notre ami Bruno Demonte, le directeur d'école Ferrandi, qui est, comme le disent les journaux, le Harvard de la gastronomie, et on appelle cette école Ferrandi Paris. Ah, c'est, donc on voit bien qu'on est au cœur de
un discours sensible pour nos demandes.
Et je voulais donc bien rappeler que, et je donne la parole à Didier Kling, que l'école Ferrandi est une école de la Chambre de commerce, alors que l'école Médéric est une école tenue par les professionnels, et je crois que cette diversité, cette richesse de notre système de formation est tout à l'honneur de notre ville.
Je donne le micro à Didier Kling, mais je voudrais remercier tous nos partenaires, et à commencer par le Fouquet's qui nous accueille, et je vais remercier toute son équipe, et nous sommes très très heureux d'être ici et de le faire dans ce lieu qui est également un lieu, je dirais, très mythique et très représentatif de Paris. Cher Guillaume Gomez, vous venez de parler de... François Guillon disait il n'est de bon bec qu'à Paris. On peut citer le grand poète Didier Kling.
Cher Guillaume, tu traduis parfaitement le caractère apaisant de la cuisine. C'est ça le soft power. C'est apaisant, c'est convivial, c'est chaleureux. C'est un moment de partage. On a bien compris que la cuisine, c'est à la fois de la factivité de Paris. C'est en même temps le rayonnement de la place parisienne et de la France. Dans son ensemble, ça a toujours joué, tu l'as bien dit tout à l'heure, un rôle important dans la diplomatie, et ça joue encore aujourd'hui. La question qui se pose, c'est dans le cadre de la mission qui t'est confiée aujourd'hui, en quoi nous pouvons chambre de commerce au travers notamment de l'école, différentes lignes qui étaient citées à juste raison tout à l'heure, mais avec l'école Bénéric également, que je salue très volontiers, en quoi peut-on t'aider pour autant que tu aies besoin de notre aide?
Alors, merci, cher Président, de proposer cette aide, qui est bien évidemment la bienvenue. Toutes les aides seront les bienvenues pour mener à bien la mission. Alors, ma mission, je vous en parle un petit peu rapidement, elle consiste à mener à bien, et on a travaillé avec Jean-François notamment et tout un groupe, sur l'année de la gastronomie annoncée par le Premier ministre et voulue par le Président de la République, qui sera une année filante 2021-2022, puisqu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va commencer, pour mener à bien, alors, des opérations, bien sûr, festives autour de la gastronomie parisienne et française, en fonction des acteurs sur le territoire, mais également être le socle de ce que l'on souhaite pour notre gastronomie française, c'est-à-dire aller vers une gastronomie humainement engagée, plus durable, plus sociale, plus sociétale, plus environnementale, ce que souhaite aujourd'hui le consommateur, et en même temps réfléchir à cette professionnalisation de nos métiers et l'attente que l'on peut avoir de ça, avec bien sûr toutes les écoles qui participent à la formation de nos jeunes, mais également un volet éducatif. Nous proposons avec ce collectif le petit déjeuner à l'école, des cours de cuisine à l'école, et ainsi de suite, pour aller vers un modèle alimentaire français qui est connu et reconnu à travers le monde aujourd'hui, et donc pouvoir mettre tout ça en place. Et au-delà de ça, tu as parlé de l'attractivité, bien évidemment, ce qu'il faut, c'est faire connaître nos territoires, faire connaître la richesse gastronomique de notre pays, pour pouvoir attirer encore un petit peu plus de touristes, même si on est quand même la première destination touristique, il ne faut pas qu'on perde ça. Montrer également que des actions sont menées en ce sens, mais également, en effet, le rayonnement pour pouvoir vendre la France, vendre Paris à l'international, à travers tout un volet, et la gastronomie, bien sûr, en fait partie. Et j'ai également, et c'est là où peut-être on va pouvoir travailler ensemble, la responsabilité de regarder, d'aider les organisations qui ont cette charge sur les grands événements internationaux, à savoir la Coupe du Monde de rugby, et là où vous serez complètement impliqués, les Jeux Olympiques de Paris 2024, Olympiques et Paralympiques, pour vérifier que malgré les moments festifs, on va dire, et de compétition, on veille bien à ce que la partie gastronomie soit représentée, bien évidemment, mais surtout soit observée dans le sens où on l'entend, avec justement un volet peut-être social, peut-être aussi environnemental, faire attention au gaspillage, faire attention à la méthanisation des déchets, faire attention à l'égalité femmes-hommes, faire attention à l'insertion de jeunes travailleurs handicapés ou non, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment là où on va travailler au plus près avec les écoles pour pouvoir justement mettre cette transmission en avant durant ces grands événements sportifs. Mais ce sont des événements où le monde entier aura les yeux sur Paris pour les Jeux Olympiques, un petit peu au-delà, parce qu'on a même une compétition qui se déroulera à Tahiti, donc Paris est vraiment très très large pour les Jeux Olympiques de 2024, mais également pendant cette Coupe du Monde du rugby, ou sur 10 pays, ou sur 10 villes, pardon, et bien sûr, Paris aura sa place. Donc je ne manquerai pas de revenir vers la Chambre de commerce pour chacune de ces occasions, et on pourra, je le sais, avec tous les formateurs déjà, et puis les jeunes apprenants, participer à tous ces bons moments de convivialité.
Merci Guillaume. Alors, est-ce qu'il y a des questions de nouveau? Et notre ami Pascal Gousset, président du GNI Paris-Île-de-France.
Merci Mathieu. Chef, cher Guillaume, tu as parlé gastronomie, tu es en charge et ambassadeur, tu es chef de cuisine. Et je te demande, moi, au niveau de la profession, on a une requête à te faire, parle un peu du service, tu l'as fait tout à l'heure, du sommelier. Le service fait partie de l'expérience client. La sommellerie, l'accueil, le métier de maître d'hôtel, et aujourd'hui on a une crise des vocations. On a besoin de toi, chaque fois que tu interviens. Pense à redonner envie de faire le service et à exprimer le bonheur qu'il y a à servir.
Alors, tu le sais, bien que je sois chef de cuisine, je ne suis pas là pour représenter les chefs de cuisine. Je suis là vraiment pour représenter tous les acteurs de la gastronomie et au sens le plus large du terme. Et tu le sais, puisque je fais partie de ceux qui militent pour avoir un diplôme de restaurateur, et non plus un diplôme de chef de cuisine ou d'hôtel, puisque quand vous destinez au métier de la restauration, vous ne destinez pas à faire que de la cuisine ou que de la salle. Donc c'est un vrai métier, tu l'as dit. Donc voilà, on travaille avec Catherine depuis de nombreuses années déjà à pouvoir protéger le mot restaurant, on y travaille encore, et on espère que c'est en bonne voie. Donc bien évidemment, il faut voir la gastronomie française dans son entièreté. La gastronomie française, c'est une équipe, c'est pas juste des cuisiniers. On a eu l'occasion de le dire, je parraine les Journées nationales de l'agriculture qui sont ce week-end, j'en profite pour remplacer un petit mot. Hop, n'hésitez pas à aller visiter nos exploitations, mais c'est vraiment tous ensemble que l'on peut faire rayonner la gastronomie française. La gastronomie française, c'est pas juste ce qu'il y a dans l'assiette, c'est de la production jusqu'au moment où on va le consommer, avec tous les métiers qui interviennent, et bien évidemment sur les métiers de salle. Alors pour un petit focus sur les métiers de salle, on travaille également avec notamment Jean Vasser de Pôle emploi pour en effet redynamiser tout ça. On a un souci d'employabilité dans le métier. On a 110 000 postes à pourvoir. Alors c'est beaucoup, mais en même temps, avant la Covid, je le rappelle, le métier était déjà en crise. On avait 300 000 postes à pourvoir avant la Covid. Donc si on peut y voir un petit aspect positif, c'est qu'on a un petit peu moins, mais on a quand même 110 000 postes à pourvoir. Donc bien évidemment, les métiers de salle sont très impactés. Je reçois encore des messages, encore cette nuit, de restaurateurs qui ne peuvent pas ouvrir leur établissement parce qu'ils n'ont personne pour faire le service. Et quand ils disent personne, c'est même pas une belle-sœur ou quelqu'un qui viendrait juste poser comme ça à l'accueil et faire quelque chose, et non, personne. Donc oui, en effet, il faut motiver les jeunes, il faut en parler, c'est le discours qu'on tient dans les écoles aussi, de dire il n'y a pas d'erreur, vous pouvez commencer par la cuisine, faire de la salle, testez-vous à tout, parce que si vous vous destinez en tout cas au métier de restaurateur, vous aurez besoin, quand vous êtes restaurateur, même si c'est vous le chef de cuisine, si vous manque quelqu'un en salle, faut aller en salle, si vous manque quelqu'un au bar, faut aller au bar, si vous manque quelqu'un en cuisine, faut aller en cuisine. Et le métier de restaurateur est cette belle combinaison, l'hybridation de plusieurs métiers, et je crois que c'est comme ça que l'on arrivera à motiver nos jeunes en leur disant aujourd'hui vous avez plusieurs possibilités, ce qui compte c'est pas tant le chemin, c'est le projet que vous avez au bout, et que en effet vous pouvez faire de la salle pour être un très bon chef de cuisine. Et j'en donne souvent l'exemple, puisque moi j'ai fait de la salle. J'ai ce qu'on appelle, alors c'est là qu'on voit qu'on vieillit, c'est quand les diplômes que vous passez n'existent plus, et j'ai passé un BEP hôtelier qui réunissait un CAP salle, un CAP cuisine, un CAP hébergement. Et je le dis aux jeunes quand je suis dans les écoles, je n'aurais pas fait ce métier de cuisinier comme je l'ai fait si je n'étais pas passé par la salle, parce qu'il faut comprendre en effet l'intégralité du process pour la restauration. Donc bien évidemment, combattons ensemble les a priori qu'il peut y avoir sur la salle pour motiver les jeunes à aller vers ce métier.
Guillaume, j'ai envie de rebondir sur la question de Pascal.
Rebondis.
Puisqu'on est à Paris, c'est quand même une ville où on accueille le monde. Est-ce qu'il y a une spécificité du service parisien? Je m'adresse du coup autant d'ailleurs à Pascal que à Guillaume. On a eu la chance tous d'avoir pu voyager. Et effectivement, on n'est pas accueilli de la même façon dans différents pays. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'il faut mettre en avant à Paris?
Je pense qu'en voyage un peu, on se rend compte que l'accueil, le service, il y a une dimension culturelle. Et je pense qu'il faut redonner goût et exprimer dans les écoles, peut-être au niveau de l'orientation, l'épanouissement qu'on peut avoir quand on fait service. Enfin, c'est des métiers où on peut gagner en confiance, c'est des métiers où on peut gagner en expérience. Et le contact des autres est toujours enrichissant. Et donc c'est ça qu'il faut exprimer. Il faut exprimer qu'il y a un ascenseur social aussi qui est possible. En commençant par la salle, on peut évoluer. Il y a beaucoup d'exemples dans la profession. Et on est une des rares professions où l'ascenseur social fonctionne très bien. Et on le voit dans toutes les catégories de la restauration, du fast-food à la très grande restauration gastronomique. On a énormément d'exemples. Il faut peut-être valoriser ces exemples pour donner l'envie d'eux. Parce que ces métiers du service ne sont pas dans la lumière comme le sont les métiers de cuisinier qu'on voit dans les médias, la télévision. Voilà. C'est mon point de vue. Mais il y a une dimension culturelle à ne pas oublier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service, le mot service, il n'a pas le même sens suivant le pays où on est. En Asie, on a une notion du service qui est différente, vous le savez tous. Quand vous voyagez, le service, c'est quelque chose de naturel dans certains pays. Chez nous, il faut le réapprendre, et il faut le réapprendre à la base. Et je pense que c'est au niveau de l'école et de l'éducation nationale qu'il faut partir.
Oui, il faut aussi travailler, et c'est ce qu'on fait notamment avec le groupe de travail, sur l'orientation de nos jeunes. C'est-à-dire que beaucoup ont subi en fait ce métier de serveur, parce que voilà, ils ne l'avaient pas forcément choisi. Mais ce qui est réel, c'est qu'il y a un épanouissement total lorsque vous faites ce métier. On le voit notamment avec les étudiants. On a bon nombre d'étudiants qui viennent dans cette profession parce qu'ils feront des études, peu importe d'ailleurs, et qui viennent souvent pour se payer des vacances d'été plus tard. Ils viennent travailler quelques semaines, quelques mois, et ils ne repartent jamais. ils découvrent un épanouissement dans le service. Et bon nombre, quand vous parlez avec des grands professionnels des métiers de salle, quand vous leur demandez leur cursus, ils ont tous commencé par faire des fois médecine, tourisme, totalement autre chose. Et en fait, ils ont fait un job d'été, ils ont travaillé ce contact avec la personne, ce contact au commerce. C'est vrai aussi où ça a été des métiers, alors un petit peu moins maintenant, mais à l'époque où il y avait une rémunération qui pouvait être assez conséquente. Et quand vous faites bien votre métier, notamment quand vous êtes en saison, quand vous voyez combien est-ce que vous pouvez gagner quand vous faites correctement votre travail, ça vous encourage à mieux le faire, et beaucoup ne sont pas repartis. Donc en fait, on a un souci d'orientation, d'attractivité dans le métier, mais par contre, il y a beaucoup moins de déperdition en salle qu'en cuisine. Vous voyez, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui vont dans la cuisine. Alors, vous donnez encore un petit peu de chiffres, les métiers de la restauration, c'est 900 000 emplois, 300 000 créations de postes par an. C'est-à-dire que sur le papier, les jeunes ne restent pas plus de 3 ans, et comme il y en a qui font quasiment toute leur carrière dedans, c'est-à-dire que souvent, au bout d'un an ou deux ans, ils ont quitté le métier. Et ça se ressent beaucoup plus en cuisine qu'en salle.
Merci Guillaume. Je me tourne vers Catherine, je vous laisse vous présenter.
Bonjour Catherine Diego. Je me permets juste de rebondir sur votre propos concernant le service. C'est juste un petit clin d'œil. J'ai un fils qui est élève chez Ferrandi en bachelor de service et il est très épanoui. Donc ça peut marcher.
Quel bon choix les gars.
Ça peut marcher. Juste un petit clin d'œil, chef, pour saluer un autre de vos talents. Je dirais que c'est votre présence sur les réseaux sociaux. Métier,
j'ai peur que vous parliez de ski, comme nous étions au ski ensemble il y a quelques années, j'ai peur que vous parliez très talent à descendre les pistes.
Je me permets. En tout cas, sur les réseaux sociaux, vous les avez investis très tôt, avec talent et bienveillance, parce que c'est un univers impitoyable, nous qui avons fait un peu de politique, ou qu'en faisant encore, on connaît la dureté de cet univers, vous le faites avec humour, et je pense que c'est un... Vous rayonnez, j'ai regardé votre compte, vous avez 240 000 followers sur Twitter, ce qui est quand même exceptionnel. Et je pense que c'est également un excellent message pour les jeunes qui peuvent vous voir également et voir l'éventail de vos talents. Donc un autre bravo.
Merci beaucoup. Alors, je vais faire un petit point sur la communication. Alors c'est vrai que j'essaye autant que faire se peut, alors des fois avec des erreurs, hein, j'en ai fait aussi, hein. Il m'a fallu quelques réprimandes sur les réseaux sociaux, j'en ai eu comme tout le monde. C'est vrai que ça a été la possibilité, le moyen, déjà c'est le dernier vecteur de communication gratuit, donc il ne faut quand même pas s'en priver, et c'est un moyen d'aller toucher un public qui aujourd'hui ne serait pas forcément venu à ma rencontre. En effet, les jeunes, des chefs à l'international, ça nous permet de garder le lien même avec des gens de la profession, mais une fois de plus à tous les niveaux de l'échelon, aussi bien du jeune qui travaille dans un restaurant jusqu'à un grand directeur d'hôtel, où on peut, via les réseaux sociaux, interagir ensemble. Et c'est en effet la possibilité de faire passer des messages, de faire passer, de montrer quelque chose. Moi, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous ne verrez jamais rien de ma vie, je ne parle pas du tout de ma vie personnelle. Un petit peu, je sais que vous êtes de la team chocolatine, de Bordeaux, moi de la team pain au chocolat, on a quelques petites guerres comme ça, mais ça nous permet en effet de faire rayonner le métier, le savoir, celles et ceux qui le font, de mettre en avant les jeunes, de mettre en avant les partenaires de nos associations, de mettre en avant, vous voyez, des initiatives comme celle-ci. Je pense que c'est quelque chose d'important de faire savoir ce que l'on fait, et c'est en effet le moyen aussi de faire rêver, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas de donner à certains jeunes l'idée de se dire bah, si c'est possible pour lui, ça peut l'être pour moi. Donc en effet, je me sers dans ce sens des réseaux sociaux, je vous invite toutes et tous à le faire parce que c'est quelque chose, on pouvait, moi je vais vous dire, j'étais pas sur les réseaux sociaux il y a 10 ou 12 ans, et c'est l'Élysée en fait qui un jour me dit, non mais chef, ce que vous faites, il faut le faire savoir. Ceux qui m'ont ouvert mon compte Twitter, mon compte Instagram, mon compte machin, le patron de Instagram venait à l'Élysée, du coup il fallait que je joue un compte Instagram pour faire. Alors c'est vrai que ça m'a valu beaucoup de followers, ma première photo sur Instagram c'est avec le patron d'Instagram. Donc du coup ça m'a permis d'avoir tout de suite un petit peu de followers, mais de followers, c'est les suiveurs, pour donc voilà, mais c'est en effet, je pense, un bon moyen. Et alors, celles et ceux qui sont en contact des plus jeunes dans les écoles, vous le savez, cette digitalisation de la société aujourd'hui fait que de toute façon, on ne peut pas aller contre. On est obligé de passer par là parce que les outils du futur, enfin, même du présent, sont déjà là. Passe par le numérique, donc c'est quelque chose. Ce lien entre le réel et le virtuel, à partir du moment où on en garde conscience. C'est pas la vie, les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose d'important en tout cas.
En tout cas, tu nous encourages à développer les réseaux sociaux des Lumières de Paris. Madame, nous avons la parole, mais j'ai monsieur qui s'est le premier et je viens vous voir.
Oui, bonjour, je suis Stéphane Malchaud, je dirige une grande brasserie à Paris.
On a un point commun ensemble et avec Pascal, c'est que nous sommes maîtres restaurateurs. Et je rappelle que le titre de maître restaurateur est un titre d'État. N'importe qui ne l'obtient pas et celui qui l'a est engagé. Et à ce titre, je voudrais rebondir sur la notion d'ambassadeur. Tout à l'heure, Pascal parlait du personnel de salle. Ne sont-ils pas les premiers ambassadeurs de la cuisine pour nos clients? Qui c'est qui transporte, qui emmène les assiettes préparées avec amour par les chefs à la table des clients, si ce n'est les serveurs, les chefs de rang, les maîtres d'hôtel, les commis, les apprentis? Peut-être dans vos voyages internationaux, vous allez porter l'image de la gastronomie française qui ne se réduit pas forcément à la cuisine, mais justement à cet ensemble des métiers. Et voilà, c'était juste une remarque. Et comment, dans votre mission d'ambassadeur, pouvez-vous utiliser cette notion d'un titre de maître restaurateur qui a été créé en France, mais qui pourrait très bien être valorisé dans d'autres pays?
Alors, merci. Alors déjà, en effet, le titre de maître restaurateur, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des deux titres étatiques, celui de maître restaurateur que l'on demande, et celui de meilleur ouvrier de France, que l'on doit passer, et qui sont les deux titres d'État. Le titre de maître restaurateur se demande, et sous la responsabilité du ministère des Finances, et après un audit assez complet d'ailleurs du restaurant avec comment est-ce que vous approvisionnez, comment est-ce que vous travaillez, le traitement des déchets aussi en fait partie, ainsi de suite, vous obtenez ce titre de maître restaurateur. En effet, ce titre de maître restaurateur a vocation au départ à rayonner qu'en France, mais il a été décidé il y a quelques temps, on travaille avec le président Alain Fontaine dessus. Je ne sais pas si je vends la mèche avant lui, mais en tout cas, on travaille sur un titre de maître restaurateur à l'international qui doit être, on en a parlé avec Jean-Baptiste Lemoine encore au dernier point du club de la Côte d'Achèque, d'ailleurs. Et donc, il va y avoir des titres de maître restaurateur donnés à l'international pour celles et ceux qui font rayonner la gastronomie française dans le même esprit, à savoir du fait maison, à savoir la valorisation du terroir, des savoir-faire, de l'apprentissage, avec le même cahier des charges. Donc c'est quelque chose bien évidemment d'important, et vous savez, quand la France rayonne à l'international, c'est l'ensemble de la profession qui doit en être fier, et on doit porter tout ça. Donc oui, le titre de maître restaurateur va très prochainement rayonner à l'international, mais au-delà de ce titre de maître restaurateur, mon rôle de mission, du moins c'est comme ça que je l'entends, puisque cette mission, je l'ai créé avec le président de la République, donc je peux en fait y mettre ce que je veux. Je vais faire en sorte de valoriser tous les labels qui font ce savoir-faire français, cette qualité, des maîtres artisans, de l'artisanat d'art, du label rouge, de nos AOC, de peu importe. Les labels français, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle français, que l'on peut des fois dire oui, mais bon, on rajoute de la loi sur de la loi et des codes sur des codes, en tout cas, ça fonctionne. On sait que toutes celles et ceux qui tendent vers une certaine qualité, vers un label, aujourd'hui sont connus et reconnus. Et donc ce modèle français peut être décliné. Tu l'as dit dans ton introduction, j'ai été nommé par les Nations Unies il y a maintenant près d'une dizaine d'années ambassadeur pour les GI, pas les soldats. Les GI, c'est ce qu'ils appellent les indications géographiques, l'équivalent de nos IGP, parce qu'ils se sont rendus compte qu'à l'international, en effet, ce modèle français est quelque chose qui fonctionne, et que vous soyez producteur de café au Kenya ou producteur de riz en Thaïlande, si vous faites de la qualité, si vous protégez un terroir, si vous protégez un savoir-faire, vous vivrez mieux de votre travail. Ça fonctionne partout dans le monde.
Merci Guillaume, et donc on peut que vous encourager aussi à rejoindre Orotoc, qui fait le travail sur cette qualité du produit, parce que sans vrai produit, il n'y a pas de bon restaurant. Je me tourne du coup vers Delphine et qui va se présenter.
Bonjour, Delphine Malachal aussi, je suis conseillère de Paris. Je suis également à Cédiac depuis la naissance. Et donc c'est pour ça que j'ai une question à vous poser directement. Enfin, pas que de gluten, mais justement face à cette explosion d'intolérance, d'allergie, pas uniquement en France, mais vraiment dans le monde. Il y en a, c'est pas des modes, hein, contre pas du tout, de lactose. Comment vous, vous réagissez au niveau de la gastronomie, également au niveau de l'information dans les écoles. Et voilà, c'est un peu des modes et de sensibilité aussi, notamment pour les remarques de sensibilité au niveau.
Alors, c'est vrai que c'est un sujet où il y a quelques années, personne n'en parlait. Non pas que ça n'existait pas, mais personne n'en parlait. Aujourd'hui, c'est quelque chose, bien évidemment, que l'on prend en compte, et très sérieusement. C'est-à-dire que nous, les cuisiniers, les gens qui sont dans la fabrication, soit nos pâtissiers, nos boulangers, c'est pas quelque chose que l'on a appréhendé comme une mode. On le sait, c'est du vécu, c'est du sérieux. On travaille avec des nutritionnistes, notamment au sein de Rontoc, avec le professeur Anne, on travaille avec des médecins, on a travaillé sur le sujet. Le constat, il est que l'on doit cette recrudescence d'allergie, peu importe quelle qu'elle soit, à notre mauvaise alimentation. Si ces maladies-là existaient, mais étaient peu communes il y a 50 ans, tout simplement, c'est parce qu'on mangeait mieux. Et là, on ne fait pas la guerre à l'agroalimentaire, mais quand même, l'agroalimentaire, enfin, quand on parle avec les grands patrons de l'agroalimentaire, je vous le dis, on n'est pas là pour faire de la mauvaise qualité ou de la bonne qualité, on est là pour faire de l'argent. Il suffit que les gens achètent de la bonne qualité, on fera que de la bonne qualité. Et à partir du moment où on est parti, et notamment sur le sujet dont vous parlez, sur les problèmes liés au gluten, c'est un travail que l'on fait avec nos amis boulangers, les bons boulangers, quand on vous explique la fermentation, le travail du blé déjà, le travail des semences, du blé, la fermentation, alors c'est un petit peu technique, je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, mais en fait, le bon pain, c'est un très bon aliment et vous n'aurez aucun problème. Les gens qui sont allergiques au gluten, ils peuvent manger du bon pain avec une fermentation qui fera en sorte que... Ah si, essayez, on veut vous présenter des boulangers, vous verrez.
On va présenter Dominique Oral.
Voilà, à partir du moment où la fermentation fait son travail de digérer l'amidon, à partir du moment où la fermentation fait son travail, vous avez quasiment plus de traces à l'intérieur. Par contre, le pain de mie industriel acheté au supermarché, c'est un poison. Votre corps ne sait pas l'assimiler. Ça fait des milliers d'années qu'on mange du pain, ça fait que quelques dizaines d'années qu'on mange des pains de mie avec des ingrédients, des E machins que personne ne connaissait il y a encore quelques années. Là, on a un scandale qui est en train de se faire sur une gomme qui vient d'être appelée. Il y a des traces de je sais pas quoi, des phanols à l'intérieur. Bon, voilà, c'est tombé cette nuit au niveau de la douane. Qui fait ce travail-là, c'est, voilà, on se dit, mais à quel moment est-ce qu'on a perdu le bon sens, tout simplement, et on a marché sur la tête, sous prétexte peut-être de mode, sous prétexte peut-être d'industrialisation, de modernité, et d'argent, bien évidemment. Mais au départ, c'est même pas une question d'argent, parce que quand vous achetez le produit, vous ne le payez pas le moins cher. Alors, il a fallu passer par des scandales, peut-être, avec des lasagnes au poney, à 1 euro, où on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on mange, après tout, 1 euro, oui, ça peut pas être du bœuf. Mais en effet, les gens aujourd'hui se réapproprient leur alimentation. Et on voit d'ailleurs que depuis quelques années, ça commence à baisser, les problèmes d'allergie. Parce que à partir du moment où les gens se réapproprient leur alimentation, on le redira jamais assez, mais c'est pour ça aussi qu'on milite pour des cours de cuisine à l'école, que chacun ait cette autonomie de savoir cuisiner au minima. On ne demande pas à faire des chefs de cuisine, on demande à faire des gens qui peuvent s'assumer et à chaque saison puissent se faire à manger et pas découvrant des légumes en disant « Et comment est-ce que ça se cuisine ?» Donc voilà, en mangeant des produits de saison, en mangeant de la cuisine faite maison, c'est ce que défendent également les maîtres restaurateurs, il y a de moins de problèmes d'allergie. Voilà. Et il faudra plusieurs générations pour les effacer. Comme il a fallu plusieurs générations pour les amener, il faudra maintenant plusieurs générations pour les effacer.
Mais au niveau d'information, c'est-à-dire que pour les sauces ou des choses comme ça, est-ce que vous les rappelez Est-ce que ça peut être plus cher? Mais c'est vrai que c'est souvent plus léger. Enfin...
Non, vous savez, nous, c'est pas le problème du coût quand vous faites à manger. De toute façon, la cuisine, vous la faites pas pour vous, vous la faites pour l'autre. Donc à partir du moment où vous faites la cuisine pour l'autre, vous voulez qu'il mange. Donc nous, on fait, enfin, voilà, il n'y a pas un cuisinier qui vous dira, oui, non, mais bon, c'est pas grave, on fait quand même. Vous faites à manger pour faire plaisir à l'autre. Et avant tout, la cuisine, on le rappelle, le fait de se nourrir, l'étymologie du mot gastronomie, c'est ça, c'est de se nourrir et de rester en bonne santé. C'est que vous prenez avant tout soin de votre santé. Si vous nourrissez pour vous empoisonner, ça s'appelle pas se nourrir. Voilà, c'est autre chose. Donc, en effet, il y a tout un travail à faire éducatif avec les enfants. On travaille aussi, on a un gros dossier, notamment sur les cantinières. C'est un mot qu'on met toujours au féminin, cantinière, sur pourquoi est-ce que les enfants s'alimentent mal à la cantine. On voit apparaître, on travaille avec un collectif. On avait des problèmes de malnutrition, on a des problèmes d'obésité, ça coûte à la France 20 milliards d'euros par an. 20 milliards d'euros par an, les problèmes liés à la mauvaise alimentation. Donc on se dit, est-ce que si sur ces 20 milliards, on ne pourrait pas en récupérer un petit peu, là je m'adresse à nos sénateurs, à nos députés, est-ce que sur ces 20 milliards, on ne pourrait pas récupérer un petit peu d'argent pour faire de la prévention et dire un petit déjeuner à l'école pour éviter que les gamins ils arrivent juste avec un paquet de chips dans le bide ou des Kinder Country. Ensuite, des cours de cuisine à l'école pour aller vers une meilleure alimentation. Et on aura tous à y gagner. Et ça passe bien évidemment par nos cours de cuisine. Mais les cours qui sont aujourd'hui dispensés dans les écoles ne sont pas des cours qui ont destination à vous empoisonner ou vous rendre malade. Donc, bien évidemment, comme une fois de plus, quand vous maîtrisez les techniques, peu importe les ingrédients, quand vous savez comment faire, puisque c'est vous parlez des sauces, soit réduire, soit épaissir une sauce, soit donner une consistance, vous avez tous les outils. Mais pour, et ça va de faire ça avec des gélifiants naturels, que ce soit marin ou osseux, ça va avec en effet remplacer la farine par d'autres possibilités avec des fécules, ainsi de suite, de l'épaissir avec des pulpes de légumes, tout est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, les professeurs qui sont dans les écoles maîtrisent le sujet. Donc en fait, le problème, c'est pas tant ce qui se passe dans les restaurants, vous n'aurez jamais de problème en allant au restaurant si vous déclarez une allergie, le professionnel, il saura y faire face. Il saurait faire face. Le problème, c'est le hors, justement, restauration, c'est et dans les cantines, et dans le milieu professionnel, les services de restauration dans les entreprises, et à la maison.
On a deux directeurs d'école hein, qui peuvent compléter s'ils le souhaitent, bien évidemment. J'aimerais un petit peu prendre la parole.
Merci, chef, pour ces jolis comptes que vous nous faites. Donc, pour rejoindre la question de madame, pardon, je suis Brigitte Gauthier, élue à la Chambre de commerce de Paris de France. Et alors, je voulais savoir quelle était votre approche de la croissance du vegan et du végétarien et bientôt des viandes artificielles, en vous précisant que je suis gourmande et gourmet.
Alors, jusqu'au vegan et au végétarien, je vous souviens, dès que vous me parlez de viande artificielle, ça m'irrite un petit peu. Alors déjà, vous dire que le principe même de la cuisine, de la gastronomie, c'est le partage. Mais c'est le partage des produits, mais c'est également le partage des idées. On peut en débattre, on peut parler. Moi, je prône le plus végétal dans la gastronomie, pas parce que c'est une mode, mais parce que déjà, c'est bon pour la santé, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la gastronomie doit prendre soin de votre santé, mais avant tout parce que ce sont des vrais produits. Le légume, c'est pas un petit peu en haut de l'assiette. Vous pouvez faire des grands plats, et il a peut-être fallu passer par, en effet, une éducation, et peut-être que là, les médias nous ont aidés. Il y a des grands chefs, je le cite souvent, un grand chef parisien, Éric Fréchon, au Bristol, qui fait un plat avec du poireau, mais c'était inimaginable il y a 30 ans. Son directeur lui aurait dit, mais chef, tu débloques, les poireaux, c'est pour le personnel, et puis là, tu mets du caviar ou de la langoustine. Aujourd'hui, on peut faire des grands plats, de la grande cuisine. Vous prenez toutes les cartes de 3 étoiles Michelin en France. En hiver ou en été, ils vous font des plats à base de poireaux, à base de tomates, à base de carottes, à base de ce que vous voulez. Le légume, les légumineuses, nos céréales. On est le pays qui a le plus de variétés de légumineuses au monde. On parle toujours du blé, du riz, mais il n'y a pas que ça. Il y a des lentilles. Les lentilles font un bon travail de promotion. Mais je veux dire, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, bien évidemment, on peut aller là-dessus. Sans aucun problème. D'ailleurs, je vous donne une exclue. Mon prochain livre est sur la cuisine des légumes. Voilà. Et pas sur le fait d'être végétarien, mais le fait juste de... On se dit qu'on a 14 repas, quelqu'un de près normal, moi j'en ai un peu plus que 14 par semaine, mais sinon c'est 14 repas par semaine, est-ce que dans ces 14 repas, pas forcément faire du tout végétarien, mais à chaque fois c'est 3 temps, une entrée, un plat, dessert, bon, sauf pour ceux qui sautent le dessert ou l'entrée, mais vous voyez sur toutes ces séquences-là... Oui, le fromage, bien évidemment, mais le fromage, on ne pourra pas le remplacer. Mais sur tous ces temps-là, est-ce qu'on ne pourrait pas, une fois, deux fois, trois fois dans la semaine, se faire de temps en temps, soit une entrée végétale, soit un dessert exclusivement à base de légumes ou de fruits, d'ailleurs, soit un plat végétal. C'est pas plus manger de viande ou plus manger de poisson, c'est mieux s'alimenter, tout simplement. Et d'ailleurs, on a fait un travail colossal avec les métiers de viande, avec les bouchers, avec les producteurs, qui, eux, sont les premiers à dire... manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Ils ont inventé le mot flexitarisme, c'est eux qui l'ont inventé au salon de l'agriculture il y a quelques années, pour aller vers un régime alimentaire qui soit plus en adéquation, tout simplement, avec le bon sens. Donc, et à partir du moment où on parle bon sens, c'est là où je vais rebondir sur les viandes de synthèse, de laboratoire, où là, c'est plus du tout du bon sens. C'est-à-dire que là, par contre, vous ne m'aurez jamais de votre côté, sous prétexte de prôner soit un bien-être animal, soit l'écologie, qui sont en plus à chaque fois, en face de tous ces arguments, des mensonges. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très pour faire de la viande de synthèse, ça consomme énormément d'énergie, énormément d'eau. Nous battons et nous avons lancé avec Eurotoc au niveau européen une pétition. Je vous invite d'ailleurs toutes et tous à signer. Si vous ne le faites pas, vous ne sortirez pas d'ici. Qui prône la reconnaissance de notre agriculture conventionnelle. Il faut savoir que le travail de nos agriculteurs, au-delà de nous nourrir, qui est déjà quand même en soi une performance, c'est aussi de prendre soin de nos paysages, de nos savoir-faire et de notre agriculture. Et autant je dis pas que si un jour je vois une vie sur Mars, je serais peut-être très content d'avoir une entrecôte, peu importe comment est-ce qu'elle arrive dans mon assiette, autant tant que j'ai les pieds sur Terre, bah, je veux que derrière une entrecôte, derrière un poulet, derrière ils ont fait des nuggets, encore un traitement français, à Singapour, en laboratoire, autant, bah, derrière ça, c'est un produit, bien sûr, c'est un animal, mais c'est également un savoir-faire, une femme, un homme, un élevage, un territoire, ça défend quelque chose, un cahier des charges, quand c'est lorsque c'est à l'intérieur de nos labels. Donc autant aller vers une alimentation plus saine, plus responsable, plus durable, bien évidemment, aujourd'hui c'est juste du bon sens, autant aller vers quelque chose qui sortirait du bon sens, je ne serai pas l'homme qui en fera la promotion.
Merci Guillaume. Écoutez, on est bientôt au terme de ce petit déjeuner. J'imagine qu'il y a peut-être des gens qui veulent te voir. On peut prendre une dernière question, puis j'irai vers Catherine, mais Jean-François m'a fait un petit signe quand j'ai dit qu'il y avait des directeurs d'école dans cette salle.
Merci beaucoup. Donc Jean-François Dossivin, directeur d'école Médéric. Alors plusieurs petites choses par rapport à la formation pour madame tout à l'heure. Soyez sans crainte, dans les écoles hôtelières, on ne travaille que des produits frais, que des produits français, des œufs élevés en plein air, du bio. Bon, je m'engage pour Médéric, mais je pense que c'est la même chose pour Ferrandi, j'en suis bien sûr. Voilà, donc on travaille beaucoup là-dessus, on travaille beaucoup sur le service aussi, bien entendu, et on peut se rendre compte aujourd'hui, grâce au Fouquet, qui est un établissement qui forme beaucoup d'ailleurs en apprentissage, et je les félicite, que le service a encore de l'avenir, parce que le service est parfait ce matin en tout cas. Je voulais ajouter une chose par rapport à Guillaume. Guillaume a été aussi le premier chef à l'Élysée à faire rentrer une femme dans les cuisines de l'Élysée. Ça n'a pas été dit, et ça c'est important par rapport à la parité, qui est une ancienne de Médéric, c'est bon, ça je le sais. Voilà. Donc moi je voulais juste. La question c'était par rapport à l'avenir, donc l'école hôtelière, les jeunes, qui ont passé une année très 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 difficile, pour qui ça a été pénible de se projeter, d'imaginer l'avenir. Donc avec cette pandémie et cette redistribution des cartes dans la restauration, quel message que je pourrais passer en rentrant à l'école, là, justement, pour les jeunes, et le message d'avenir que tu peux leur passer.
Voilà. Merci. Ah oui, un petit mot sur l'égalité femmes-hommes. C'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle je travaille, parce qu'il a fallu quand même faire le constat. On parle de parité, on parle de tout ça. Je travaille dans un univers, c'est vrai, exclusivement masculin, parce que enceinte militaire, donc pas de femmes dans l'armée à l'époque, donc tout simplement pas de sanitaire, pas de vestiaire. Donc quand je suis arrivé aux responsabilités, j'ai fait la première des choses, on va rajouter un toilette, on va rajouter une petite pièce pour faire un vestiaire. Et en effet, j'ai fait rentrer Marie, à l'époque, qui était la première commis, j'ai fait rentrer la première commis femme, et depuis on a pu embaucher du personnel féminin, jusqu'à Christelle Brua, qui est la chef pâtissière du palais d'Élysée. Je suis signataire, je vous en parle aussi, de la charte Jamais sans elle, qui a été lancée il y a quelques années, qui lutte justement pour ce phénomène d'égalité femmes-hommes, et je ne participe à aucune prise de parole en public s'il n'y a pas des femmes qui soient représentées, pas juste là pour passer des slides, enfin des fiches, des choses, mais pour animer et pour avoir à parler, et notamment dans nos métiers, on le sait, si aujourd'hui on manque aussi de femmes chefs qui représentent la profession, c'est bien parce qu'à un moment donné, les jeunes femmes en cuisine n'arrivent pas à s'identifier, et il faut justement leur expliquer que c'est un projet qui est possible. On a Anne-Sophie Pic, on a Stéphanie Lequelec, on a plein de grandes femmes chefs qui sont connues, on en a d'autres qui ne sont pas connues mais qui sont là, et naturellement les mères lyonnaises étaient des femmes chefs. La cuisine a toujours été tenue au départ, et à quel moment est-ce que on a perdu une fois de plus le bon sens? Je ne pourrais pas l'expliquer. Donc le constat était de se dire, il ne suffisait pas de dire non mais c'est pas vrai, oui c'est vrai, il n'y avait pas assez de femmes dans le milieu de la cuisine, il faut travailler à changer ça. Donc on essaye au quotidien de travailler, et une fois de plus les convaincre. Et alors, Pour les jeunes, le message qu'il faut leur passer après cette période de pandémie et la Covid, c'est vrai que c'est une période difficile pour tout le monde, pas que pour nos métiers. Déjà, c'est ce qu'il faut leur dire. C'est pas juste, c'est pas que d'entre soi, c'est pas juste la restauration qui a été impactée, c'est la planète entière et toutes les professions. Mais leur donner un message d'espoir, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que j'interviens dans les écoles, et on a pu faire en visio pendant la Covid, c'est leur dire déjà, l'avenir, c'est vous. Ça reste un métier, bien évidemment, d'avenir. La restauration, et d'autant plus quand vous êtes français, quand vous êtes formé en France, le monde entier vous est ouvert, vous avez cette chance de pouvoir faire ce que vous voulez. Tu as parlé tout à l'heure, Pascal, d'ascenseur social, en effet, c'est quelque chose qui fonctionne dans la profession. Faites-vous remarquer par la qualité de votre travail et vous aurez toujours du travail dans le monde entier. Vous êtes français, vous êtes en cuisine, vous êtes en salle, vous êtes pâtissier, vous êtes boucher, vous êtes charcutier. On ne vous demande pas si vous êtes bon. Vous êtes français déjà, on vous ouvre la porte. Après, à vous de prouver si vous êtes bon et à vous de montrer que vous avez eu un enseignement qui le prouve. Et les gens le savent, à partir du moment où vous avez été formé en France, et là on rend une fois plus hommage aux formateurs qui sont dans la salle, c'est qu'on sait que vous allez avoir un enseignement et une formation de qualité. Le modèle de la formation française s'exporte dans le monde entier. Les écoles françaises d'hôtellerie sont demandées dans le monde entier parce qu'on sait que c'est une formation de qualité. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et leur dire que si dans ce métier, bien évidemment, il y a des difficultés, une fois de plus, tu le sais très bien parce qu'on travaille dessus. On a parlé d'égalité femmes-hommes, on pourrait parler des problèmes liés à la violence en cuisine, on pourrait parler des problèmes liés à la drogue dans nos métiers. Il y a énormément de problèmes. C'est pas de dire que ça n'existe pas, ça existe. Donc il faut changer ça. Et ceux qui doivent changer ça sont eux. Moi, c'est ce que je leur dis, je suis déjà passé dans le métier. Avec plaisir de vous accompagner. On a essayé, ma génération a essayé d'évoluer et a essayé de changer tout ça. On a fait ce qu'on a pu, on a évolué, et eux continueront de faire évoluer le métier et continueront de le changer. Et ce qu'il faut leur dire, c'est pas la chance pour ce pays et pour ce métier, c'est eux. Et donc, on compte sur eux. Voilà.
Merci Guillaume. Je vous demande de parler de votre question à Marc-Pierre, donc on va donner la parole à quelqu'un.
C'est très bien.
Mathieu, peut-être qu'on va se mettre à Guillaume pour que tout le monde puisse nous voir. Alors, chers amis, voici le moment, non pas de se quitter, parce qu'on a préféré réserver un petit temps qui seront des échanges plus faciles avec Guillaume Gomez pour vous à la fin de ce petit déjeuner, en tout cas pour ceux qui souhaitent et qui ont le temps de rester quelques minutes. C'est difficile aujourd'hui de faire la conclusion, cher Jean-François, cher Président, parce qu'en fait, Guillaume suscite un tel engouement, une telle émotion que tout a été dit. Donc, en général, on réserve quelque chose pour la fin. Là, c'est difficile. Alors, du coup, je vais être dans une note, cher Guillaume, plus personnelle. Si tu le permets, dire que nous nous connaissons depuis pas mal d'années, une quinzaine d'années, que entre nous, il y a le club de la table française qu'on a créé il y a 12-13 ans, la grande époque du repas gastronomique des Français qu'on a réussi à faire inscrire en 2009, qui a été une étape importante, la baguette tout récemment, et puis aujourd'hui les Lumières de Paris. Alors, Guillaume et moi, c'est vrai que ce sont des rencontres permanentes, c'est un travail que nous avons partagé, je dirais, ce sont des appels. Quand on l'appelle, on sait qu'il va toujours dire oui, qu'il sera toujours présent, parce que Guillaume, c'est vraiment le symbole, et je le dis très naturellement, c'est le symbole de l'amitié, de la générosité. On a peu parlé de ce qu'il fait aussi dans certains pays en matière de générosité, d'entraide, etc. Il est assez pudique, mais il a aussi une action assez merveilleuse dans ce sens. Guillaume, au-delà du grand professionnel que c'est, hein, bien sûr, je parle d'autres qualités, puis on partage tous les deux l'amour de la France, ça vous l'avez compris, et on essaye de défendre avec passion. Alors, on s'est rencontrés à l'hôpital pour quand les chefs nourrissaient les enfants malades. On s'est rencontrés, comme je disais, alors à l'Élysée, moi je l'ai vu avec plein de présidents, en général, ils m'aidaient à pouvoir accéder au président et pour pouvoir faire pousser les dossiers, parfois d'une façon un peu brusque. Certains présidents étaient un peu choqués parce que les présidents sont différents. Il y en a qui adoraient la gastronomie, il y en a qui ont très bien compris le sujet, il y en a qui étaient un peu plus compliqués, qui aimaient un peu moins manger. Donc il fallait toujours y aller. Mais Guillaume a toujours été présent et surtout très précieux auprès des ministres aussi. Parce que les ministres, le chef restait à l'Élysée, mais les ministres succédaient, notamment de l'agriculture, qui était un ministre partenaire important, et il fallait souvent revenir à la charge, etc. Et avec aussi une bonne partie de tous ceux qui sont là ici et qui ont accompagné toutes ces aventures. Donc c'est un très beau symbole des Lumières de Paris. Voilà, c'est ce que je voulais te dire en t'accueillant aujourd'hui ici. Tu symbolises vraiment les Lumières de Paris, ce que nous voulons faire avec les Lumières de Paris. C'est un réseau des amoureux de Paris, mettre en valeur Paris, faire briller Paris. Alors tu le fais au-delà de Paris, bien sûr, en France et dans le monde aujourd'hui, mais tu corresponds tout à fait à l'ADN que Jean-François, Alain, Olivier Tillière qui n'est pas là aujourd'hui, Frédéric, Nicolas, toute l'équipe du Bureau des Lumières de Paris nous souhaitons faire. Alors, autre symbole des Lumières de Paris, c'est le Fouquet's qui nous accueille aujourd'hui, qui est présidé par Alexandre de Seigne, vraiment, et ça a été dit par Jean-François tout récemment, qui est vraiment le symbole du professionnalisme, de la gentillesse, de l'accueil, de tout ce qu'on voudrait voir en France de partout. Bravo. Tout ce que l'on voudrait voir, vraiment vous représenter cet art de vivre que nous voulons défendre aux Lumières de Paris. Et encore merci, et puis quel beau symbole, là encore une fois, il y en a beaucoup aujourd'hui, de se retrouver pour le premier petit déjeuner, après ce confinement, chez vous, sur les Champs-Élysées. Je crois que ça c'est très fort et que tout le monde est très très content. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui font briller Paris avec nous, et évidemment la Chambre de Commerce, hein, les deux présidents qui sont présents, et tous, au-delà des présidents, tous ceux qui sont venus de la Chambre aujourd'hui, bien sûr Médéric, Ferrandi, le GNI et Pascal Mousset qui participent à la belle aventure. C'est grâce à vous qu'on peut travailler sur ces Lumières de Paris. On a lancé cette aventure il y a 3 ans. On essaye de la faire vivre, on y met beaucoup d'amour, de temps, de passion, et on compte sur vous pour nous aider à poursuivre. Parce que notre objectif, vous l'avez compris, c'est de faire briller Paris, c'est d'aborder tous les sujets sans tabou, mais on n'est pas du tout dans la critique, c'est pas le sujet, on est bien en dehors de la politique, et moi ça me fait beaucoup de bien d'être en dehors de la politique. On est là pour faire avancer les choses, pour avoir des idées, et puis constituer un réseau. L'idée, c'est qu'en venant aux Lumières de Paris, vous fassiez des rencontres qui vous permettent, eh bien, qui vous apportent quelque chose dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, etc., etc. C'est vraiment un réseau, et c'est là notre objectif. Donc, je ne peux que souhaiter, nous souhaitons, que vous nous rejoignez toujours plus nombreux. Vous l'avez vu, nous avons une série d'événements, notamment de petits déjeuners. Nous avons reçu des gens aussi différents qu'Hubert Védrine, et qui est venu nous parler de Paris qui brille. Et il nous en a très bien parlé, que Jean-Jacques Ayagon et que beaucoup d'autres. Bientôt, en effet, Roselyne Bachelot qui a accepté. Et puis nous avons ce grand dîner de gala dont Jean-François a parlé, qui est le prochain rendez-vous, le 12 octobre, à l'Automobile Club, sur la place de la Concorde, un autre endroit très symbolique qui brille. Et nous aurons donc Xavier Darcos qui va être le président, oui, de la soirée, du dîner de gala, donc grand chancelier. Et nous aurons également comme parrain Stéphane Bern qui sera là ce soir-là avec des invités prestigieux auxquels nous remettrons nos prix. Voilà, c'est le prochain rendez-vous après l'été que nous vous souhaitons le meilleur possible. Que vous puissiez prendre de belles vacances en France, certainement. Et donc, on se rencontre le 12 octobre. On se retrouvera avec grand plaisir. Et encore une fois, au nom de toute l'équipe, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce petit déjeuner. Encore merci et surtout bravo, Guillaume.
Avec le bureau,
et après vous pourrez échanger
avec
Guillaume.
Voilà. Mathieu, je t'envoie tout le monde.
Allez Mathieu.
Voilà, voilà. Mais non.
On tient tout sur la photo.
Ça, c'est la
fenêtre. Merci, merci.
Merci.
Voilà.
Merci
beaucoup. Merci.
Avec plaisir.
Voilà.
Je
pense
que
nous
avons
certainement.
Oui. 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 Oui.